France Culture. Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Quand on croise un peuple, on ne peut plus le faire confiance parce qu'on ne sait pas qui il est. Parce que la tuerie qui se passe, on n'a jamais vu ça. Des ethnies qui se lèvent, qui se tuent comme des poulets, on n'a jamais vu ça.
Moi, je suis peul, mais je ne suis pas djihadiste. Il ne faut pas profiter de ce phénomène de djihadisme pour des règlements de compte.
Le Burkina, aujourd'hui, connaît des difficultés, c'est vrai. Mais je pense que c'est une difficulté qui va prendre fin.
Cette semaine, 71 soldats nigériens ont été tués dans l'attaque d'un camp militaire à Inates, attaque revendiquée par le groupe État islamique. La force de frappe des djihadistes ne cesse de croître au Sahel, au centre du Mali, dans l'ouest du Niger, au nord et à l'est du Burkina Faso. Ils étendent leur emprise et ni les États, ni l'intervention militaire française, de plus en plus critiquée, ne semblent en mesure de freiner cette offensive. Le Burkina Faso a longtemps été un modèle de cohésion sociale. Mais depuis début 2015, les attaques attribuées aux groupes djihadistes ont fait près de 700 morts dans le pays et environ 500 000 déplacés internes et réfugiés. Et cette année, la situation n'a pas cessé de se dégrader. Les terroristes savent jouer sur les failles de l'État et attiser les divisions entre communautés. Les disputes ancestrales liées à l'accès aux ressources ont viré au massacre et les Peuls sont accusés d'alliance avec les djihadistes. Présents dans toute l'Afrique de l'Ouest au gré de la transhumance de leurs troupeaux, ces musulmans nomades se sentent de plus en plus persécutés au point de se faire parfois instrumentaliser et embrigader. Les Peuls, des pions sur l'échiquier djihadiste, c'est un reportage signé Claude Guibal et Fabien Gosset. Dans Grand Reportage, le magazine de la rédaction, nous recevons le chercheur Marc-Antoine Pérouse de Monclos. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement, auteur notamment du livre « L'Afrique, nouvelle frontière du djihad » avec un point d'interrogation aux éditions de La Découverte. Et vous venez d'écrire « Une guerre perdue, la France au Sahel » apparaître en janvier chez Jean-Claude Lattès. Ensemble, nous allons commencer par écouter le reportage de Claude Guibal. Claude, au Burkina, les Peuls sont souvent assimilés aux djihadistes, un amalgame qui peut avoir des conséquences dramatiques.
Oui, et cela on l'a vu à Yergou, notamment au nord du Burkina. C'était en janvier 2019 où des milices villageoises, après le massacre d'un chef coutumier Mossi par des djihadistes, les Mossi c'est l'ethnie majoritaire du Burkina, eh bien ces milices villageoises ont lancé une chasse à l'homme et se sont vengées sur un village Peul qu'ils soupçonnaient d'héberger les terroristes. Au moins 49 morts, bilan officiel, probablement beaucoup plus, 200 selon les organisations de la société civile. Et un pays, le Burkina Faso, le pays du vivre ensemble, complètement sous le choc. Depuis, silence radio, enquête au point mort. Et ce sentiment d'injustice, d'impunité a ouvert la voie à un cycle infernal de représailles communautaires en fait, qui n'a pas cessé. Ça, on le voit au Burkina, on le voit aussi au Mali, au point que certains commencent à parler de début de guerre ethnique. Alors c'est un terme très très fort, mais c'est une sonnette d'alarme alors que dans de nombreuses régions du pays, l'autorité de l'État commence à disparaître au profit justement des milices communautaires. Ce sont des groupes qui sont apparus en fait dans le chaos, qui s'est installé après la chute du président Blaise Compaoré, c'était en 2014. Elles sont montées en puissance en fait pour rétablir le calme, pour assurer la sécurité quotidienne, enfin contre la petite délinquance, les petits voleurs dans les zones rurales. Mais après les attaques terroristes, ces groupes se sont placés en supplétif des forces de défense et de sécurité. Et parmi eux, le groupe le plus puissant, ce sont les Kogleogo, qui sont donc issus de l'ethnie principale Mossi. Et dans ces zones reculées où nul étranger ne pénètre sans être remarqué, les Kogleogo ont progressivement pallié l'absence de la police et de l'armée jusqu'à se substituer à elles, sans jamais se préoccuper des règles de l'état de droit, avec des méthodes expéditives, l'oubli de la présomption d'innocence, sans jamais être inquiété, et c'est ce qui s'est donc passé à Yergou.
Et au cours de votre reportage au Burkina Faso, Claude, vous avez justement rencontré des miliciens villageois.
Un village quelque part au nord de Ouagadougou. Il faut s'imaginer un manguier aux branches immenses et sous cet arbre, une quarantaine d'hommes au visage fermé. Certains ont de vieilles pétoires, des gourdins posés sur les genoux. Ces hommes, ce sont des Kogleogo, littéralement les gardiens de la brousse, la plus puissante des milices du Burkina Faso. Ici, ce sont eux les maîtres, ils tiennent à le montrer. Ils sont assis en cercle, on nous fait entrer au milieu, nos identités vérifiées, scrutées, il faut rester silencieux.
Si nous avons mis en place les Kobleogo, c'est d'abord pour nous protéger contre les voleurs. Bien sûr, il y a la police et la gendarmerie, mais on est dans des villages isolés. Les voleurs pillent notre bétail et volent nos biens. La vie devient trop difficile pour nous. C'est pour ça qu'on s'est décidé à créer ce mouvement dont l'action est connue par les autorités. C'est ça qu'on appelle les Kobleogo.
Et aujourd'hui, par exemple, alors que le Burkina Faso connaît une période d'insécurité, est-ce que eux, ils jouent un rôle dans la défense du Burkina Faso ?
Oui, les Kobleogo jouent un rôle dans ce domaine. Si on reçoit une information sur la présence de djihadistes quelque part, on s'y rend immédiatement et on les combat, sans peur.
Et alors, qui sont ces ennemis du Burkina qui déstabilisent le pays ou qui cherchent à le déstabiliser ?
On les appelle des djihadistes, mais on ne sait pas vraiment qui ils sont. Certains disent qu'il y a des Burkinabés parmi eux, d'autres que ce sont des étrangers. On ne sait pas exactement, mais pour nous, ce sont des ennemis.
Comment on les reconnaît, les djihadistes ?
Celui qui vient tuer l'un des nôtres, on le considère comme un djihadiste. Parce qu'avant, on ne s'entretuait pas. Ces djihadistes veulent nous tuer et nous, on ne va pas les laisser faire sans réagir.
Et alors ? Quand il entend des critiques, par exemple, contre le travail des Kobleogo, comment il réagit, lui, à ces critiques-là ?
Ce sont des accusations sans preuve, juste pour nous faire du tort. Ceux qui accusent les Kobleogo à tort sont ceux contre lesquels nous luttons. Les voleurs et ce genre de personnes. Ceux-là, évidemment, ne peuvent pas dire du bien de nous. Sinon, le Kobleogo ne torture pas, ne maltraite pas et ne force pas les gens à faire des choses insensées. Tenez, regardez ce carnet. Vous voyez, on a écrit des numéros de châssis, les plaques d'immatriculation, des modèles de voitures recherchées, bref, des informations importantes fournies par les autorités pour qu'on les aide dans la lutte contre les djihadistes.
L'homme nous fait signe de le suivre. Derrière lui, il y a un hangar rempli d'objets récupérés au cours de raids punitifs.
Ah, ça, c'est des motos volées. On a récupéré ça des mains des bandits.
Ah, il y en a beaucoup là, hein, quand même.
Et puis, il y a cet arbre là-bas, avec ses énormes racines, où sont enchaînés sous un soleil de plomb une dizaine d'hommes aux membres tuméfiés.
Voilà les bandits là.
Ah oui, vous les avez enchaînés.
Voilà, les gens enchaînés.
C'est des gens qui ont fait quoi ?
Bon, d'autres ont volé des plaques solaires, d'autres c'est des motos, d'autres c'est des portables. Toutes sortes de choses à son voleur.
5 ans après le début des attaques, les terroristes ne cessent de gagner du terrain, infligeant des pertes lourdes à l'armée, aux forces de défense et de sécurité, les FDS qui, dans leur traque aux djihadistes, sont elles aussi accusées d'exactions. À travers le pays, les autorités tentent de regonfler le moral des troupes en appelant la population à montrer son patriotisme, comme cet homme croisé dans une rue de la capitale.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour monsieur.
Oui, bonjour.
Je me permets de vous interrompre parce que je vois là sur le t-shirt que vous portez, dans le dos, il y a marqué soutien total au FDS. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Soutien au FDS parce que notre pays traverse des situations difficiles pour pouvoir vaincre justement l'ordre terroriste qui nous envahit.
Alors l'action justement des FDS, là, les forces de sécurité, elle a été critiquée par beaucoup de personnes, notamment dans sa façon de gérer la riposte sécuritaire dans le Nord. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Bon, moi je pense que nous ne sommes pas sur le terrain. Les FDS sont mieux justement dans ce domaine-là parce qu'ils ont des renseignements là-bas qui les permettent de sortir ou de ne pas sortir. Et moi, je refuse véritablement de critiquer leur façon de travailler parce que je ne sais pas ce qui se passe. C'est eux seuls qui sont au front, c'est eux qui connaissent les réalités, qui se présentent à eux, et qui est terroriste, qui ne l'est pas. Parce que la plupart de nous, lambda, on pense qu'un terroriste, c'est celui qui tient l'arme, qui combat. Lui, ce n'est qu'un combattant. Il y a des gens qui financent en bas. Que peut-être que si on coupe le financement, ça peut aussi cesser. Il y a des gens qui donnent des renseignements et tous seraient terroristes. Moi, je ne peux pas dire que le gars qu'on a pris chez moi, il n'est pas terroriste parce que je ne le connais pas. Peut-être que je le vois, c'est un vendeur de bœufs, c'est un vendeur de moutons. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il n'est pas terroriste ? La question reste posée. Donc moi, je pense que ceux qui sont sur le terrain sont ceux-là qui ont des renseignements, qui savent pourquoi ils le font.
Vendeur de bœuf, vendeur de moutons.
Au Burkina Faso, quand on dit ça, tout le monde sait de qui on parle. Les Peuls. Cette ethnie d'éleveurs musulmans, des nomades à la culture millénaire et repliés sur elles-mêmes, qui répondent à un code strict de valeur, le Poulaku. La deuxième ethnie du Burkina, à la fois intégrée en milieu urbain, mais aussi complètement aux marges dans les zones grises du pays, ces zones transfrontalières où ces nomades insaisissables vivent sur les mêmes territoires que les groupes armés qui terrorisent le pays. Au feu rouge, un taxi s'arrête.
Il y a une mentalité au Burkina. Quand on dit un Peul, beaucoup de gens pensent que le Peul, il fait partie des voleurs. Donc à Yirgu, ce qui s'est passé, ce n'est pas l'armée, c'est le groupe d'autodéfense qui a essayé de se venger parce qu'il y a eu une attaque du djihadiste. Et ils ont dit que les djihadistes sont allés dans la communauté Peul. Mais ils n'ont pas pu retrouver les djihadistes. Ils ont dit que les Peuls ont caché les djihadistes. Et ils ont donné un ultimatum aux Peuls de rendre les djihadistes, soit on attaque le village. Ça, c'était le Kogluego qui a fait ce système.
Et vous, ça vous a choqué ?
Tuer presque 200 personnes parce que vous pensez que des djihadistes, ils ont caché des djihadistes, tout en sachant que ces gens sont des Burkinabés. Comment voulez-vous que ces gens ne se vengent pas si l'État aussi ne trouve pas une solution pour emprisonner des gens ? Jusqu'à là, l'État n'a pas, on n'a pas fait de jugement, on n'a pas fait d'enquête, trouver que la responsabilité revient à un tel. Il fallait qu'on trouve des gens, on les enferme pour apaiser les esprits de tout un chacun. Mais ça n'était pas fait. Et comment voulez-vous que ces gens qui ont été tués, qui ont perdu des frères, des soeurs ou des parents, ne vont pas se venger sur le Burkina ? Ils vont se venger parce que c'est un conflit ethnique. On favorise les Mossi en défaveur des Peuls. Et en ce cas, il y aura des conflits seulement.
Vous-même, vous êtes Peul ?
Non, je ne suis pas Peul, ni Mossi.
Et pourtant, vous sentez qu'il y a une injustice ?
Moi, je dis, sincèrement, il y a une injustice. Il n'y a aucun pays où on va faire un massacre de 200 personnes et les autorités n'arrivent pas à définir d'où vient le problème. Ils ne disent pas ce que c'est le Congolais, ils essaient de protéger. Pourtant, tout le monde sait au Burkina, c'est l'autodéfense congolais qui a fait ce massacre. Et ce conflit, si on n'essaie pas de l'arrêter, c'est un truc qui grandit. Le massacre de Yargo, je pense que ça devrait être une leçon pour nos autorités à comprendre que si on continue dans cette lancée, ça peut qu'aller. On aurait dû condamner les gars du Corleo. Il y a eu des enquêteurs de beaucoup de pays qui sont venus enquêter, mais ils n'ont jamais trouvé la faille. On essaie de protéger des gens. Et ça ne va jamais aller tant qu'on n'essaie pas de les déprotéger, de les arrêter, de les condamner et de les mettre en prison pour la paix de ce pays. Je pense, c'est ma pensée du jour.
Presque un an après l'attaque, la justice est au point mort. Un sentiment d'injustice, d'impunité qui a ouvert la voie à un cycle infernal de violence et de représailles. Après Yirgu, Arbinda, Dablo. Impensable au Burkina, cet îlot jusqu'ici magique de l'Afrique de l'Ouest où le communautarisme semblait ne pas avoir prise. Le Burkina, le pays des hommes intègres, le pays de la cohésion sociale, ne se reconnaît plus, ou plutôt ne veut pas se reconnaître dans ce tissu social en train de se déchirer. Le Narlé Naba est le porte-parole du Moro Naba, l'empereur des Mossi, l'ethnie majoritaire du Burkina Faso. C'est un des hommes les plus puissants, les plus respectés du pays.
J'allais dire, c'est les journalistes qui célèbre cette difficulté de la ségrégation des communautés. Et il y a eu effectivement un moment où beaucoup de citoyens d'une communauté ont perdu la vie. Et on a attribué cela à une autre communauté, notamment les Peuls et les Koluego. Mais je pense que ce n'est plus des réalités qui continuent.
Vous faites allusion, excusez-moi, au massacre de Yirgu ?
Voilà, je fais allusion au massacre de Yirgu, où on a dépeint que c'est vraiment les Peuls contre les Koluego. Les Koluego, c'est comme toute autre communauté qui a des forces et des faiblesses, qui a des avantages et des inconvénients. Voilà, même les militaires, les policiers, les gendarmes, il y a des bavures, que ce soit en Europe ou aux États-Unis ou partout dans le monde, il y a des bavures. Je ne suis pas magistrat, je ne suis pas donc dans une analyse, je ne suis pas dans le secret des dieux. Je ne sais pas qui a fait quoi, mais je sais que, en tout cas, ce n'était pas bien, ce massacre. Et en tout cas, paix à leur âme. Et vraiment, je souhaite que Dieu apaise les cœurs des orphelins et des veuves de ce massacre de Yirgou. Mais je peux vous dire que cela n'est pas comme un phénomène qui continue. C'est un phénomène qui a eu lieu, c'est une bavure qui a eu lieu, mais je pense que ce n'est pas un phénomène continu. L'hémorragie a été arrêtée.
Depuis son palais de Ouagadougou, où il nous reçoit, le Narlé Naba règne sur des centaines de milliers de personnes qui obéissent à sa parole.
Le Burkina, aujourd'hui, connaît des difficultés, c'est vrai. Mais je pense que c'est une difficulté qui va prendre fin. Le peuple burkinabé est comme une nation, famille. Ici, les gens se marient d'une ethnie à une autre. Les 63 nationalités se sont tellement interpénétrées qu'il n'est pas possible d'arriver à une discrimination d'une nationalité à une autre. Il peut y avoir des cas isolés de difficultés de ce genre, mais on ne peut pas généraliser au Burkina Faso une opposition entre Mossi et Peul, entre Gourossi et Peul, ou entre Bobo et Mossi. Ce n'est pas possible. Les terroristes le font. Ils tentent d'opposer les communautés. C'est une tentative, mais qui va rester vaine.
Parce qu'il y a des groupes terroristes qui ont clairement appelé, par exemple, les Peuls à se révolter, à rejoindre leur groupe.
Bien sûr, ils tentent, mais ils ne pourront pas. Le peuple doit savoir, doit prendre conscience qu'il a sa partition à jouer dans cette guerre asymétrique. Ce n'est pas une guerre conventionnelle, une guerre classique, non. Le peuple doit savoir donner l'information, doit savoir dénoncer le terroriste, le djihadiste. On doit savoir le dénoncer.
Le terrorisme. Il a chassé de chez eux un demi-million de Burkinabés, et probablement le double d'ici l'an prochain. Certains sont réfugiés dans les camps des Nations Unies, d'autres ont cherché abri dans leur propre clan, leur famille. Ils ont tout perdu, ils n'ont plus que leurs mains pour survivre, comme cet homme épuisé, au regard flou, plié dans ce champ où il repique des oignons sous un soleil liquide et brûlant.
Donc on n'a pas pu prendre quelque chose, les animaux sont restés dans la nature comme ça, les récoltes on n'a pas pu récupérer, même nos affaires qui sont dans la maison on n'a pas pu récupérer, on aurait dû peut-être essayer de détruire la maison, mais on n'a même pas eu le temps pour ça, parce qu'il y avait vraiment urgence.
C'est qui ces gens qui attaquent ?
Ceux qui nous attaquent, ils sont de la race Peul. Apparemment, ils viennent de la frontière entre le Burkina et le Mali. Quand ils veulent venir, ils viennent pratiquement dans la soirée ou dans la nuit, à partir de 16h en descendant, qu'ils viennent pour attaquer les gens.
À votre avis, ils attaquent pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils veulent ?
Au début, quand ils arrivaient, ils essayaient de rassembler les gens et puis essayaient de les dire qu'il faut laisser pousser la barbe et puis couper vos pantalons pour que ça soit court. Après ça, quand ils sont repartis en revenant, quand ils reviennent, ils trouvent un accroupement comme ça, ils ne cherchent pas à comprendre et tirer sur le tas avec des fusils. Et donc eux, ils n'ont jamais su ce qu'ils veulent exactement. Ils ne savent pas pourquoi ils tuent les gens, ils ne savent pas pourquoi il y a ça en fait.
Quand ils demandent de faire pousser la barbe, quand ils demandent de couper les pantalons, c'est pour les obliger à adopter les principes islamistes.
C'est pour qu'ils deviennent des musulmans. C'est pour qu'ils deviennent des musulmans.
Mais dans votre village, vous êtes Mossi. Dans votre village, il y avait des Peuls avant et vous viviez ensemble.
Ouais. Quand on était dans notre village, on vivait en cohésion avec les Peuls et on n'avait pas de problème. Et c'est cette année que voilà, il y a eu ça et on ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé.
En qui vous avez confiance aujourd'hui si vous avez peur de retourner chez vous, si vous avez peur des Peuls, est-ce que vous avez confiance en quelqu'un ?
De nos jours, on fait confiance qu'à nos autorités, la police et puis notre autorité. Quand on croise un peuple, on ne peut plus le faire confiance parce qu'on ne sait pas qui il est. Voilà, on ne peut plus savoir qui ils sont, on ne peut plus qui est le bon, qui est le mauvais. On ne connaît pas. Donc on fait confiance qu'à nos militaires et puis à nos autorités. De nos jours, on ne reconnaît plus le pays parce que ce n'est pas le pays qu'on a connu à l'enfance. Avant, tu croisais n'importe qui, tu pouvais le faire confiance. Mais de nos jours, c'est devenu difficile parce que la tuerie qui se passe, on n'a jamais vu ça. Des ethnies qui se lèvent, qui se tuent comme des poulets, on n'a jamais vu ça. Donc ça fait qu'il ne sait plus dans quel monde il vit. Voilà.
Nous sommes dans un lieu public de Ouagadougou où on nous a donné rendez-vous. Des rescapés de villages attaqués, des témoins d'exactions, tous sont peuls, tous préfèrent rester anonymes. Leur venue jusqu'à Ouagadougou a été compliquée. À la table à côté de nous, des personnes se sont installées, peut-être pour écouter. Les peuls nous ont demandé d'aller un peu plus loin, sous un autre manguier, loin des oreilles indiscrètes, loin des peurs des représailles, parce qu'aujourd'hui, leur vie, disent-ils, n'est faite que de danger.
Assis sur une chaise en plastique, un vieil homme en tunique bleue. Il est raide, son regard totalement figé. Il raconte ces hommes qui débarquent un matin, en pick-up, certains en uniforme. Il raconte ces villageois raflés, puis les tire dans la brousse, dans le lointain, les corps récupérés le lendemain, les corps qu'il a, dit-il, enterrés de ses propres mains.
Il dit que lui, il a vu une exécution sommaire de 28 personnes auxquelles il a vraiment assisté.
Quand vous dites « il », vous parlez de qui ? Qui a arrêté ces gens devant vous et qui les a tués ?
Oui, moi, Nangi, Yim, Ben Yuwaro,
Lam, Lam, Yim, sécurité, comme Nangi, Ben Yimbaro.
Il dit que ce sont les FDS, les forces de défense et de sécurité, c'est eux qui sont arrêtés ces gens et allés exécuter. Il dit que voilà, vraiment, il peut témoigner sereinement avec ça.
Donc, normal, voilà, il témoigne.
Voilà, il est vraiment témoin au nom de Dieu. Qu'il jure qu'il est vraiment témoin.
C'est une accusation très grave de dire que l'armée procède à des accusations extrajudiciaires. Pourquoi pensez-vous ? Quelle était leur motivation ?
Il dit que lui, vraiment, il est confus de voir ce comportement des forces de sécurité. Parce que lui, ce que lui, il comprend de cette situation, c'est que leur seul tort, c'est d'avoir accueilli les déplacés après le massacre de Yirgou. Parce que leur solidarité à l'endroit des déplacés n'a pas plu ou n'a pas rencontré l'assentiment des forces de défense et de sécurité parce qu'ils se disent qu'ils sont solidaires avec les terroristes. C'est là qu'ils ont dit qu'ils ne sont pas solidaires avec les terroristes. Et c'est là qu'ils disent que les FDS leur dit à partir du moment où, selon les propos des forces de défense et de sécurité, le fait qu'ils ont reçu les déplacés, c'est que tous les leaders là, et ils vont les arrêter. Ils vont les exécuter. Ils ont arrêté des leaders religieux, ils ont arrêté les jeunes bras valides et tout ce qui est bras valide, ils ont trié. Le tri qu'ils ont fait, c'est tout ce qui est bras valide, toute personne qui est solide a été arrêtée et a été exécutée.
Alors, vous êtes un homme qui a vécu, je vois votre barbe blanche, vous avez connu le Burkina Faso et votre commune depuis des années. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, vous vous sentez comment psychologiquement ?
Il dit
Parce qu'avant, Arand et Yoni,
il dit que lui, vraiment, sa vie d'aujourd'hui, il trouve que c'est une vie de misère. Parce que il n'arrive pas à manger. Il n'a pas l'appétit. Il n'a plus l'appétit. Il n'arrive pas à dormir la nuit avec tout ce qu'il a vu. Et vraiment, il trouve que avant, il meurt. Et ce qu'il l'a traversé est difficile. Et lui, il voit que rien n'est fait pour que l'avenir soit rose. Et aujourd'hui, il est vraiment triste.
Il
dit que depuis que lui a vu ce massacre, depuis ce jour, il ne dort plus dans sa maison. Il préfère dormir dans la nature, au dehors, sous des arbres, parce que à tout moment, on peut venir te prendre dans ta maison et puis t'exécuter. Donc c'est à cause de ça que lui, il ne dort plus dans sa maison et il n'est pas seul. Plusieurs personnes, c'est comme ça. Personne n'est dans sa maison encore.
Le collectif Paul, qui nous a présenté cet homme, veut que son témoignage soit entendu devant la justice, qu'une enquête soit ouverte. À chaque attaque de caserne, les djihadistes volent des armes, des uniformes. Alors comment savoir qui a fait quoi? Comment faire la part des exactions, documentées par les organisations des droits de l'homme et la société civile? Mahamoudou Savadogo est un ancien militaire, un gendarme, aujourd'hui consultant, un homme de terrain, un des meilleurs connaisseurs de la violence armée au Sahel.
Il y a deux points importants qu'il faut retenir dans ces accusations. La première, c'est que une fois que les forces de défense et de sécurité commencent à commettre des exactions, ça veut dire qu'ils sont en train de perdre le terrain. Ça veut dire qu'ils sont acculés. Et c'est réellement le cas. Ils sont présentement acculés. Ils sont en train de perdre beaucoup en hommes et en matériel. Et donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas, le deuxième point, c'est qu'ils n'ont pas l'équipement adéquat. Et lorsqu'on n'a pas l'équipement adéquat dans un combat, on tente tout simplement de se défendre, de survivre. Et on tente de survivre en faisant quoi? En essayant d'avoir un minimum de résultats. Et le minimum de résultats, c'est se jeter sur les pauvres populations qui sont sans défense. On voit clairement aussi que les forces de défense et de sécurité accusent les populations de ne pas collaborer avec elles. Parce que tout simplement, il y a eu longtemps une absence de l'État dans ces zones. Et la relation qu'il y avait dans ces zones, c'est-à-dire la relation historique qu'il y a eu entre ces populations et les forces de défense, ont été empreintes rien que de violences, d'extorsion, de spoliation à l'égard de ces populations. Donc la seule image que ces populations ont des forces de défense et de sécurité, c'est la force opprimante. Donc ça va relever du miracle qu'on voit que par ces temps, ils arrivent tout de suite à collaborer parce qu'il y a toujours eu des relations conflictuelles entre les populations, surtout dans ces zones, je précise bien, surtout dans ces zones, entre les populations et les FDS.
Cette méfiance, elle vient aggraver la situation. Face à un ennemi invisible, insaisissable, comment gagner sans le soutien actif de toute la population? Ces terroristes qui s'attaquent pourtant à tous les Burkinabés, qu'ils soient Mossi, Gourmanché, Peul, chefs religieux, chefs coutumiers, instituteurs, badauds, tous sans exception.
Nous, l'insécurité, nous la vivons tous les jours. Au départ, ils ne s'en prenaient pas aussi vite. Mais arrivé à un certain moment, la situation s'est compliquée. Ils viennent, souvent mais dans les jours de marché, et ils rafalent. Créer une psychose compliquée. Il y a eu des prêtres qui ont été tués, il y a eu vraiment des responsables, il y a eu des directeurs d'école qui ont été tués. Voilà.
Vous, quand vous vous déplacez, c'est devenu très compliqué, c'est devenu dangereux?
C'est très dangereux. Le fait d'être peul aujourd'hui au Burkina, c'est pas simple. Hein, parce que nous sommes taxés des terroristes. Nous sommes taxés des terroristes. Donc c'est carrément compliqué. Bon, moi, on me voit, on sait déjà que je suis un peu... Peut-être c'est mon accent qui... Si tu es repéré par les terroristes, tu seras abattu. Si tu es repéré par l'armée, même si on ne t'abat pas, tu seras vraiment torturé. Donc, le fait de vivre même, le fait de vivre, c'est compliqué. Et le déplacement jusqu'ici, ce n'est pas simple. Souvent, il faut se cacher. Voilà.
À votre avis, pourquoi vous êtes taxé de terrorisme?
Personnellement, moi, je ne sais pas. Parce que la communauté Peul a vécu sur cette terre du Burkina Faso il y a des siècles. Et pourquoi nous n'avons pas décidé d'être terroristes? Et puis c'est maintenant que nous allons être terroristes, où tout le monde est orienté vers le développement. Et d'ailleurs, dans ces communes où il y a ces attaques, c'est des peuples qui sont des députés, c'est des peuples qui sont des conseillers. Et il n'y a pas de raison. C'est un non-sens. Peut-être par notre appartenance religieuse, comme certains font l'amalgame des choses, disent que c'est le djihadisme. Le djihadisme, ce n'est pas. On ne vit pas le djihadisme actuellement. Le djihadisme, c'est une guerre sainte. À l'époque du prophète, le terrorisme, ça, c'est un acte politique qui tend à déstabiliser un pouvoir. Notre appartenance religieuse ne peut pas être quand même un alibi d'appartenir ou bien à appliquer des actes terroristes.
Beaucoup d'éleveurs disent que les conflits traditionnels qui existent depuis toujours entre les éleveurs, les agriculteurs, les groupes terroristes s'en servent pour instrumentaliser ces problèmes et que aujourd'hui ça joue un rôle dans les querelles entre les communautés.
Certes, il y a des conflits, mais ces conflits entre éleveurs et agriculteurs, ça ne date pas de maintenant. Ça peut être un alibi. Le comble, c'est quoi? Quand un seul peuple, par exemple, sa vache est partie détruire quelque chose, au lieu de s'en prendre à cette personne, on s'en prend à toute la communauté peuple dans la localité. Et après, on vient dire, on appelle les gens au calme. Il y a eu plusieurs cas, hein, dans plusieurs localités. Ils ont tué des peuples comme ça souvent, mais des gens même qui ont vécu pendant longtemps, on les chasse. Bon, quand on chasse quelqu'un dont son arrière-grand-père, bon, je ne sais pas. Quand tu es stigmatisé et qu'on ne te considère pas, c'est comme si on ne te considère pas comme citoyen de ce pays.
Se sentir burkinabé avant tout, ne pas se laisser prendre au piège du communautarisme que les djihadistes tendent à travers le Sahel. Un piège que ce Paul qui nous a donné rendez-vous dans ce café de Ouagadougou, après un long et dangereux voyage, veut à tout prix éviter.
Le Burkina, c'était un pays des hommes intègres. C'était un pays modèle. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, ça nous surprend. On ne reconnaît plus les Burkinabés comme ça. Moi, je suis Paul, mais je ne suis pas djihadiste. Il ne faut pas profiter de ce phénomène de djihadisme pour des règlements de compte. Certaines communautés ont profité de cette situation, profité pour se venger des peuples. Ils font de la complicité avec les FDS. Voilà, parce que nous avons constaté que effectivement il y a beaucoup de nos frères peuples qui ont été dénoncés, mais de manière injuste, et qui ont été soit abattus ou qui ont été torturés.
Aujourd'hui, vous dites que la lutte contre l'insécurité, contre le terrorisme, elle sert de prétexte.
Exactement, exactement. Vous voyez que les peuls, c'est quelqu'un qui n'a pas voulu aller à l'école. Ceux qui sont là avec vous, ils ont été à l'école. Ils sont là, ils ont la police, ils ont la gendarmerie. Donc, quelles que soient les petites difficultés qu'ils ont avec un peul, une fois en justice, c'est le peul qui est mis en cause. Cette injustice-là a fait révolter certains jeunes peuls. Leurs parents ont été tués, leurs frères ont été tués. Donc, finalement, ils ont jugé nécessaire de rejoindre même les forces du mal pour peut-être pour se défendre. Voilà. Il y a une certaine logique, c'est-à-dire qu'ils ont fui et ils sont allés effectivement chercher des armes. Moi, je ne vais pas dire qu'ils sont allés se rallier. Ils sont allés là où ils pouvaient avoir des armes. Et ils sont revenus pour se venger effectivement de ceux qui les ont fait ce mal-là.
Les Peuls, ils vont voter?
Les Peuls, c'est la deuxième ethnie, je crois, hein, du Burkina. Hein. Mais comme je vous le dis, il y a beaucoup de ceux qui n'intéressent pas le peuple. Ces histoires de vote, de démocratie, le peuple, ça ne les intéresse pas. Courir, aller chercher des pièces d'état civil, aller chercher des cartes d'électeurs, en dehors des peuples qui sont en ville. Tous les peuples qui sont en campagne, sans les dire. Sans les dire. Donc voter pour eux, ça c'est une perte de temps. Et d'abord, ça ne change rien à leur situation.
Mais ça, c'est un problème. Parce que pour se sentir citoyen, il faut pouvoir être représenté.
Exactement. C'est pourquoi il faut mener des actions à l'endroit de ces communautés. Pour les amener à un changement de comportement.
Et est-ce que dans les forces de sécurité, est-ce que dans l'armée, il y a des peuls?
Là où c'est un problème, il n'y en a pas. Sur 100, tu ne vas pas trouver deux peuls.
Pourquoi?
Là aussi, ils ne se sont pas intéressés.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas une discrimination nécessairement de la part des autorités, mais en tout cas, les Peuls ne cherchent pas à s'enrôler.
Ils ne cherchent pas à s'enrôler. Ça ne les intéresse même pas. Le Peul ne s'est jamais intéressé à l'armée. Ça aussi, c'est un problème, effectivement.
Oui, parce que s'ils ne sont pas présents dans l'armée et que si l'armée devient elle-même communautaire...
C'est ce qui provoque effectivement cette situation-là. Parce que si on était à force égale, je pense qu'il y a des choses qui ne vont pas se passer. Parce qu'un militaire peul ne va pas accepter qu'on massacre ses frères peuls.
Est-ce que vous pensez que la confiance, elle peut revenir?
C'est l'autorité qui doit amener la confiance au sein de la communauté.
Il n'y a que l'État qui peut régler ça.
Cette question, c'est l'État.
Rétablir l'État, l'autorité, le droit, la justice, pour Mahamoudou Savadogo, c'est là qu'est l'urgence. Certains peuls parlent aujourd'hui de tentatives de nettoyage ethnique. Est-ce que ce terme vous semble correct?
Non, pour le moment, je ne crois pas. Je pense que c'est exagéré. Mais je pense qu'il va falloir vraiment faire attention parce qu'on est vraiment en train de marcher sur des œufs. Et il va falloir que l'État fasse attention pour qu'on ne bascule pas. Parce qu'il y a des signes, il y a des indicateurs. Et donc, il va falloir qu'on fasse vraiment très attention et qu'on surveille ce phénomène-là de très près pour que les peuls ne soient pas brimés et que les peuls ne soient pas persécutés. Parce que je pense que déjà, nous avons déjà atteint la limite acceptable. Et un autre drame sera vraiment inacceptable. Je suis convaincu et je suis sûr que si réellement l'État ne réagit pas, on risque effectivement de basculer dans cette guerre intercommunautaire. C'est du pain béni pour les terroristes et c'est sur ça qu'ils jouent pour recruter au maximum et pour avoir les adeptes. C'est les mêmes erreurs que les pays côtiers sont en train de faire en persécutant les peuls, en persécutant les minorités. Ils ne font que jeter ces minorités-là dans les bras des chefs terroristes qui les recrutent et qui les moulent dans leur système. Donc pour moi, il va falloir faire très attention. Et c'est une arme très redoutable utilisée par ces groupes terroristes-là.
On voit bien que ces groupes terroristes ont une vraie stratégie, extrêmement intelligente, presque toujours de l'avance sur la réponse aussi des États.
Absolument. Ces groupes terroristes s'adaptent au fur et à mesure à la situation et s'adaptent au fur et à mesure à la réponse apportée par les États. Et eux, contrairement aux États, apprennent de leurs erreurs. Ils sont très sous-estimés par nos dirigeants et par nos grands stratèges militaires. Et pour moi, c'est des vrais stratèges qui sont en avance et qui savent anticiper et adapter leur stratégie en fonction de la menace actuelle, en fonction du déroulement des événements. Pour le cas de Burkina, ils sont même en train de communautariser le terrorisme, c'est-à-dire ils se fondent dans la communauté et ils essaient d'injecter, et de faire passer les messages radicaux sans pour autant être visibles. Et c'est cette communauté qui se révolte contre les pouvoirs en place. Donc c'est cette population qui va se lever contre son propre État, mais manipulée par ces groupes terroristes en arrière-plan.
Alors, comment gagner la bataille? Peut-être faut-il s'accrocher à cet esprit si particulier des Burkinabés, notamment celui des jeunes, encore animés par le souffle de la révolution populaire qui a chassé Blaise Compaoré après 27 ans de pouvoir absolu. Ce Burkina qui veut célébrer sa cohésion, rapprocher ses différences. À l'entrée d'une salle de concert de Ouagadougou, deux jeunes femmes, deux sœurs, ce sont les Batalpoulakou, le seul groupe féminin de musique peul. Alors Aïssata et Mariama, quand on vous voit, alors vos vêtements, vos bijoux, vous avez ces boucles d'oreilles extrêmement colorées, vous avez des perles tressées sur le front.
C'est des perles traditionnelles, ce sont des colliers peul, la coiffure est peul, voilà, tout est peul.
Comment vous définiriez être peul? Peul, ça veut dire quoi? C'est quelle culture, c'est quelle valeur?
Bon, être peul, c'est, on dit souvent, on est fier d'être peul. C'est parce que c'est des personnes qui doivent porter la paix dans leur cœur, toujours être honnête. Voilà, être peul, c'est avoir honte également de manger dehors, de s'exprimer mal, d'insulter quelqu'un. On porte toutes ces valeurs-là.
Il y a une très grande fierté
chez les Peuls.
Oui, il y a une grande fierté chez les Peuls.
C'est une culture aussi qu'on sait très importante, qui est aussi sur de nombreux pays. Les Peuls, ce sont plusieurs dizaines de millions de personnes, 40, 50, 60 millions, on ne sait pas exactement, sur plus de 10, 15 pays. C'est une culture également très ancienne et qu'on dit assez fermée, assez mystérieuse et très préservée.
Oui, on peut dire que c'est une culture mystérieuse parce que dans l'ancien temps, les Peuls étaient cassés au fond, et brousse. Parce que ils avaient tellement honte, ils ne peuvent pas regarder quelqu'un en face, ils ne peuvent pas faire certaines choses, donc ils se cachent, à tout moment ils se cassent. Donc c'est une ethnie qui a une valeur culturelle et qu'ils ont peur de faire montrer cette culture.
Peur de l'exposer.
Voilà, peur de l'exposer.
Vous avez décidé par la musique, au contraire, d'exposer cette culture peul. Racontez-moi.
Bon, on a décidé d'exposer ça parce que avant et aujourd'hui, c'est pas pareil. Aujourd'hui, on est en 21e siècle, comme on le dit. Il y a un développement qui est là. Il faut être sensibilisé parce qu'il y a certaines choses qu'il faut connaître. Voilà. Et c'est à travers l'école. Sinon, avant, les Peuls ne mettaient pas les enfants à l'école. De nature même, le Peul est intelligent. Mais quand il part à l'école, il a plus l'intelligence. Parce qu'il prend, il l'ajoute. Mais on ne les amène pas à l'école. Et c'est ça le problème.
Pourquoi est-ce que les enfants Peuls n'allaient pas spécialement à l'école?
Parce que pour nous, les parents, ils se disaient, il faut lire le Coran. Donc, on nous mettait à lire le Coran, voilà, c'est ça. Et puis, prier, et musulmans prier, parce que ce qu'il y a, c'est-à-dire, quand tu vas aller à l'école, tu ne vas plus suivre le bon Dieu, tu ne vas plus lire le Coran, tu vas laisser tout ça. Et maintenant, tu vas prendre une autre culture. Voilà, c'est pour cela qu'ils n'acceptaient pas.
Avant, les gens disaient que quand tu vas à l'école, tu perds ta culture, quand tu vas à l'école, tu perds ta langue. Parce que tu vas épouser la culture d'autrui, selon eux, avant. Selon eux, on doit rester nous-mêmes. Voilà, on doit rester nous-mêmes. On ne doit pas faire ceci, on ne doit pas faire cela. Mais aujourd'hui, on doit changer. On doit changer, on doit aller de l'avant, on doit socialiser avec le monde. Mais maintenant, avec le temps, beaucoup ont compris qu'il faut socialiser, il faut être partout. Il faut comprendre aussi l'autre. Dès que nous aussi, nous partons à l'école, nous allons comprendre ce que l'autre aussi a à nous apporter.
Et maintenant, on voit qu'à travers nos voix, à travers les voix de certains parents aussi, ils commencent à accepter ce que les gens leur disent. Ils mettent les enfants à l'école. Parce que quelqu'un qui n'a pas fait l'école, c'est comme si tu es dans le noir.
Les Peuls, des pions sur l'échiquier djihadiste, un reportage de Claude Guibal et Fabien Gosset avec Annie Brault à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
L'invité de Grand Reportage est aujourd'hui Marc-Antoine Pérouse de Monclos, directeur de recherche à l'IRD. Alors vous avez entendu l'optimisme de ces jeunes femmes qui espèrent envoyer les jeunes Peuls à l'école. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui pousse certains Peuls à s'engager dans la lutte armée? On a entendu quelqu'un qui parlait de vengeance. En fait, la motivation n'est pas tellement religieuse?
Non, parce que on voit qu'il y a aussi d'autres situations dans la région, notamment au Mali, où certains Peuls sont impliqués. Et c'est souvent en fait l'absence de protection de l'État ou les exactions des forces de sécurité qui vont amener des pasteurs Peuls à rejoindre des groupes insurrectionnels qui ont eux-mêmes émergé pour tout un tas de raisons. Où finalement, on s'aperçoit que la religion parfois n'est qu'un vernis, si vous voulez, que derrière ces insurrections qualifiées de djihadistes, il y a souvent des enjeux. Par exemple, sur l'accès à la terre, qui sont extrêmement importants, sur les couloirs de transhumance des troupeaux, ou ce genre de choses, qui font que, bon, la question de la radicalisation de l'islam se dissipe un peu derrière des réalités beaucoup plus pragmatiques, finalement.
Alors, on entend que les Peuls n'ont pas confiance dans les autorités, ils se considèrent comme des victimes, la diaspora parle même de génocide, de nettoyage ethnique. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'un pays au bord de la guerre ethnique ?
Guerre ethnique est, à mon avis, un terme un peu simpliste, parce que si vous prenez... Donc on est dans la région du Liptako-Gourma, qui inclut aussi le Mali, où là il y a un autre groupe djihadiste qu'on appelle la Katiba du Massina, dans la région de Mopti, où là aussi il y a des Peuls qui sont impliqués, et Amadou Koufa, le leader de cette Katiba, a eu à un moment des appels justement à la solidarité Peul, en les présentant comme les victimes des forces impies des États de la région. Mais en réalité, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que d'autres communautés linguistiques vont rejoindre Koufa, précisément parce que l'État ne les protège pas. Donc on a tendance, par exemple sur le Mali, à présenter la Katiba du Massina comme une opposition entre des Peuls et puis des milices qui, elles, seraient plutôt Dogons, qui seraient plutôt des milices de cultivateurs. Or, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que vous avez des Dogons qui rejoignent les Peuls de la Katiba du Massina parce que l'État est incapable de protéger leur culture et que du coup, bah, ils ne font plus confiance dans l'État pour les protéger. Malheureusement, les civils dans la région, qu'ils soient Peuls, Dogons ou ce que vous voudrez, ils sont un petit peu pris entre le marteau et l'enclume. Hein. C'est-à-dire que finalement, pour protéger leurs intérêts, bah, ils vont faire de tout bois, feu de tout bois avec les groupes en présence, que ce soit des milices, que ce soit des groupes djihadistes, que ce soit les forces armées gouvernementales. Et les malheureux n'ont pas beaucoup le choix, peu le compris.
Et est-ce que vous avez l'impression que cette situation peut pousser de plus en plus de Peuls à rejoindre la mouvance djihadiste ?
Les Peuls et d'autres. C'est-à-dire à partir du moment où vous n'êtes pas... Parce qu'il faut quand même rappeler une chose. Hein, vous avez trois grands foyers djihadistes au sud du Sahara. Il y a les Chebabs en Somalie, où là, c'est pas du tout des Peuls. Vous avez Boko Haram, là, c'est plutôt des Kanouris. Donc là aussi, c'est pas des Peuls. Et puis donc, vous avez toute cette mouvance autour d'Acmi, qui venait plutôt du nord du Mali, qui maintenant déborde sur le Burkina, où là, il y a un peu des Peuls, hein, notamment dans le nord du Burkina. Mais il n'y a pas que ça. Et il y a quand même un phénomène frappant, c'est que le pays de la région qui compte la plus grande proportion de Peuls, c'est la Guinée-Conakry, qui précisément n'a pas de groupe djihadiste. Donc il faut quand même le rappeler, si vous voulez faire l'amalgame entre Peuls et groupes djihadistes, c'est un peu, évidemment, un peu exagéré, si vous voulez. Maintenant, il y a une histoire derrière, hein, il y a une mémoire collective, parce que les grands djihads du 19e siècle dans cette région du Sahel ont été menés effectivement par des Peuls. Donc le Peul est un peu, dans la mémoire collective, assimilé aux djihadistes, aux musulmans, à l'islamisateur, aux prédicateurs, celui qui revendique le monopole de l'accès à la religion... le radieur aussi, hein, l'esclavagiste. Donc il y a cette mémoire collective, si vous voulez, qui évidemment joue pas du tout en faveur des Peuls aujourd'hui.
Mais alors Claude, dans votre reportage, on entend s'exprimer la nostalgie, hein, d'un pays dans lequel les communautés vivaient en harmonie. C'est vrai ou c'est un petit peu idéalisé ?
Au Burkina Faso, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de l'identité culturelle du Burkina, cette cohésion sociale qui est sans arrêt mise en avant. Aujourd'hui, les gens vous disent que, alors que ce vernis se craquelle, que finalement, il repose sur un fond ancestral. Alors, qui était jusque-là bien maîtrisé. C'est vrai que les conflits fonciers qui sont extrêmement importants aujourd'hui dans ce qui peut mener certains à rejoindre des groupes radicaux parce qu'ils ont le sentiment d'avoir été spoliés, tout ça, c'est pas nouveau, et c'est là-dessus que jouent les djihadistes en revanche. Mais les gens vous diront qu'il y a toujours eu ce qu'on appelle la parenté à plaisanterie, la plaisanterie à parenté, c'est-à-dire que entre tribus on se moque. Et c'est un acte social, c'est un acte normal de dire oh le Peul, ce vendeur de vaches qui sent le lait caillé, etc. Voilà, ces blagues qui faisaient partie de la normalité au Burkina. Aujourd'hui, les gens vous disent ça me fait plus trop rire, y compris dans les milieux voilà très intégrés, tout ça, parce qu'aujourd'hui les choses ont pris des proportions très importantes. Mais c'est vrai que là, une des questions qui se pose aujourd'hui dans cette guerre au Sahel, on le voit qui s'enlise, cette guerre contre le djihadisme qui dure depuis maintenant 2012, c'est que c'est une guerre contre un ennemi invisible et qui ne peut se gagner que par l'aide des populations, le soutien, l'adhésion des populations à leur gouvernement. Et on le voit au Burkina, avec cette société qui se divise et qui n'a plus confiance en son État, et bien justement, ça ouvre la voie aux djihadistes. Est-ce que Marc-Antoine Perros de Monclos, c'est aussi quelque chose qu'on ressent au Mali, etc. et tout
à fait. Hein, c'est vraiment... Alors, dans ce qu'on appelle le G5, hein, le Mali et le Burkina sont précisément les pays qui sont présentés comme les plus fragiles. À mon avis, il y en a un troisième qui est extrêmement fragile, qu'on ne veut pas voir. Non, on ne veut pas voir la fragilité, c'est le Tchad. Mais bon... mettons-le pour l'instant de côté. Donc effectivement, il y a cette impression qu'on est face à des États déliquescents qui n'assurent pas la protection de leur population et puis qui, pire que ça, hein, et le reportage le mentionne bien, à la fois leurs armées commettent des exactions, ce qui pousse les victimes dans les bras des djihadistes, ça légitime le combat des djihadistes comme étant des résistants face à des troupes d'occupation, puisque souvent ces soldats viennent d'autres régions que celles où ils sont déployés. Et puis cette milicisation du conflit qui est extrêmement dangereuse, hein, qui fait que bah, là, dans le cas du Burkina, on va utiliser les Chloé Ogo, mais on utilise d'autres milices au Mali, ou bien au Nigeria, les CGTF, ou bien dans le nord du Burkina, nord du Cameroun, etc. C'est des phénomènes qu'on retrouve un peu dans toute la région, et qui là précipitent les phénomènes de confrontation communautaire, de stigmatisation ethnique. Ça aussi, c'est extrêmement dangereux. Hein.
Alors aujourd'hui, quel est l'objectif des djihadistes? Parce qu'ils ont une très forte capacité de nuisance, mais là, ils ont renoncé à essayer de diriger.
Oui, c'est ça. Ce qui est frappant, c'est que, on disait tout à l'heure, là, la force de frappe des djihadistes a augmenté. Est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'elle croît ou est-ce que c'est pas plutôt la capacité de réponse militaire qui décroît? Moi, je crois que c'est plutôt la deuxième option, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est des groupes qui savent très bien s'étendre dans des situations de vide politique quand il n'y a rien en face. Et la situation chaotique du nord du Mali en 2012 en était une belle preuve. Donc quand il n'y a rien, ils s'étendent. Mais c'est pas des groupes qui sont capables d'articuler un projet alternatif de société. Ils sont très bons dans leur critique d'État considéré comme impuis, avec beaucoup d'injustice sociale, des fonctions publiques, des administrations qui sont extrêmement corrompues, prédatrices, qui rackettent la population, les éleveurs peuls, etc. Il y a tous ces griefs accumulés. Ça, ils sont très bons pour les critiquer. Mais en revanche, ils n'ont pas la capacité à gouverner. Ils tiennent des territoires, ils vont contrôler des populations. Mais ils n'ont pas un vrai projet alternatif de gouvernement, ce qui les distingue des guérillas, parce que pour moi, c'est plutôt des guérillas que des mouvements terroristes à proprement parler. Et c'est, ça les distingue quand même des mouvements de libération nationale qui, eux, avaient effectivement un projet alternatif de société. Là, ce n'est pas vraiment le cas.
Mais ils sont quand même des idéologues ou
Il y a un petit peu d'idéologues, mais très minoritaires. Et puis, l'essentiel des gens vont rejoindre plutôt par absence de protection de l'État. Ils n'ont pas vraiment le choix. Pour se venger aussi des exactions des forces de sécurité, parce que voilà, si un policier viole votre sœur, si on tue votre frère, bah ça vous énerve un peu. Donc vous allez effectivement chercher à vous venger. Et puis là-dedans, à chaque fois, l'islam va effectivement légitimer ces combats. Donc la religion joue ce rôle de légitimation, mais elle n'est pas forcément à l'origine de ce combat. Là, en l'occurrence, dans le nord du Burkina, on avait donc Malam Diko qui prêchait depuis longtemps contre l'État burkinabé. Et puis le conflit a été très très mal géré. Hein. Et c'est souvent la mauvaise gestion des conflits qui fait que ça dégénère et que du coup, ce djihadisme s'étend.
Alors, il faut peut-être préciser ou rappeler hein, que l'Afrique de l'Ouest, c'est pas la Syrie. Il n'y a pas un, mais des djihadismes.
Oui, et puis surtout une autre différence absolument énorme par rapport à la Syrie et l'Irak, c'est qu'il n'y a pas de combattants étrangers qui viennent d'outre-mer. Ça, c'est quand même énorme, il faut le rappeler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un déploiement de l'armée française qui cesse de nous dire que finalement, si on ne fait rien, ces groupes vont aller commettre des attentats en Europe ou en Amérique du Nord. Mais pour l'instant, c'est absolument pas le cas. Alors, ce qu'on espère, c'est que la prophétie ne sera pas autoréalisatrice.
On a tendance à globaliser la menace. On parle de la menace terroriste. C'est
Alors, c'est des groupes très fragmentés. Les dynamiques sont très locales à chaque fois, les dynamiques insurrectionnelles. Et puis, tout ce jeu, effectivement, de confrontation communautaire avec parfois, il faut bien quand même le dire, les leaders de ces groupes peuvent avoir effectivement des vraies tactiques militaires. Vraiment, dans la Katiba du Massina, dont je parlais tout à l'heure, la voisine du groupe de Ansarul Islam, qui est dans le nord du Burkina, dans la Katiba du Massina, apparemment, Koufa, le leader, va croiser un peu les communautés pour employer des peuls pour attaquer les dogons et des dogons pour attaquer les peuls. Pourquoi ? Parce que les peuls vont être, ou les dogons seront réticents à brûler les villages de leur propre communauté. Et donc, il va, et justement, au contraire, et contrairement à cette image de division ethnique, en fait, il va mélanger les ethnies, au nom d'ailleurs d'un islam qui serait rassembleur, hein, et qui serait plutôt porté par des questions de justice sociale, où tout le monde serait égaux, notamment devant la mort. Hein. Et donc, il va, en fait, mélanger les communautés pour justement accroître son assise sociale.
Mais donc, il y a quand même des efforts militaires qui ont été déployés, mais cette lutte contre les djihadistes n'a pas l'air de porter ses fruits. Pourquoi ça ne marche pas ?
Je pense que le gros problème, il y a déjà un peu une erreur d'analyse dans le fait que l'on voit dans ces groupes djihadistes un problème de radicalisation de l'islam plutôt que de mauvaise gouvernance. Je pense que le fond, il est d'abord dans la mauvaise gestion des conflits. Il y a toujours eu en Afrique sahélienne l'utilisation de l'islam pour porter des discours de contestation. Ça, c'est vraiment très ancien. Autrefois, ça s'est fait au nom du soufisme, aujourd'hui au nom du salafisme. Mais voilà, peu importe l'enveloppe doctrinale, fondamentalement, on en revient toujours à ça. Et ces discours de contestation sont extrêmement mal gérés. C'est-à-dire, vous avez une répression sanglante. On a quand même des groupes, notamment autour du Nigérien et de Boko Haram, en fait, des forces gouvernementales qui tuent plus que les groupes terroristes qu'elles sont censées combattre. Il faut quand même le rappeler. Donc, c'est des facteurs de déstabilisation énormes. Et là, dans le cas du Burkina et du Mali, on se demande si on n'est pas en train de passer à ça. Et du coup, dans cette répression sanglante, ça pousse effectivement des jeunes à aller chercher refuge dans les bras des djihadistes. Et donc, ça entretient le conflit, ça l'exacerbe et ça le prolonge. Donc, on ne voit pas, tant qu'il n'y a pas une espèce de réforme fondamentale de ces forces de sécurité, et surtout, la fin de l'impunité des forces gouvernementales, tant que les gens ne sont pas punis, puis c'est très bien dit dans le reportage, hein, sur ceux qui ont commis le massacre qui était mentionné de Peul. Ah ouais, c'est ça. Qu'effectivement, personne n'est puni. Donc il y a un sentiment d'injustice profond, et là, les groupes djihadistes se profilent là-dedans et s'étendent.
Donc Barkhane ou pas Barkhane, ça change pas grand-chose.
Bah, de ce point de vue, de toute façon, la réponse, elle sera politique. Je crois que tout le monde est d'accord pour le dire, et non pas seulement militaire. Hein. Le militaire n'en peut, mais...
Et effectivement, il y a toute cette question de l'accès à la santé, à l'éducation, au développement pour des régions entières qui sont aujourd'hui laissées à l'abandon.
Oui, il y a sentiment d'abandon et en même temps, c'est pas forcément dans les régions les plus pauvres que ces groupes émergent. Donc c'est un peu plus complexe que ça. Pour moi, c'est vraiment ce sentiment de stigmatisation communautaire, d'abandon par l'État, de prédation des forces de sécurité ou des administrations locales qui sont extrêmement importants. Et donc ça veut dire aussi, c'est peut-être un message d'espoir, que finalement avec peu de moyens, si seulement ces États étaient mieux gérés, mieux gouvernés, on pourrait certainement améliorer les choses et finalement couper l'herbe sous le pied de ces groupes djihadistes qui prospère sur ce sentiment d'injustice sociale.
Merci beaucoup Marc-Antoine Pérouse de Monclos. Je rappelle le titre de votre prochain livre qui sort mi-janvier chez Jean-Claude Lattès, Une guerre perdue, la France au Sahel. Les Peuls, des pions sur l'échiquier djihadiste. Le grand reportage de cette semaine était signé Claude Guibal et Fabien Gosset. Réalisation Annie Bro avec Jérémy Kaufmann à la technique. Un grand merci comme d'habitude à l'équipe de la documentation d'actualité. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission de la rédaction sur franceculture.fr.